Super Fail, Guillaume Erner.
Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer.
Super Fail.
La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Une phrase célèbre qui peut s'appliquer à l'une des plus grandes défaites françaises, la défaite d'Azincourt, l'une des dates les plus cuisantes pour notre pays, un jalon dans la guerre de 100 ans, ce conflit long en réalité de 116 ans, qui s'est déroulé au XIIIe et XIVe siècle. Pourquoi les chevaliers français ont-ils perdu cette bataille? Eh bien, c'est l'histoire que je vais vous raconter maintenant.
La confusion commence à gagner les rangs français. L'avantage du nombre se retourne contre eux. Ils se bousculent. Et avant de pouvoir se relever, ils sont écrasés par les hommes qui les suivent.
Ça a commencé par une bataille, ça s'est terminé en fait par un massacre. Parce que donc les chevaliers français tombaient, les archers anglais, ce qui s'était introduit à l'intérieur de l'armée, les massacraient.
Il était une fois une petite ville du Pas-de-Calais, Azincourt, qui il y a plus de 6 siècles, le 25 octobre 1415, a été le lieu d'une déroute complète de notre armée, une défaite militaire qui signe aussi les erreurs stratégiques des chevaliers français. Écoutez Frédéric Ancel nous raconter Azincourt. Il est maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur des 100 mots de la guerre aux presses universitaires de France. Il nous resitue cette bataille.
Ah, c'est le contexte de la guerre de 100 ans. Ça fait un peu plus de 80 ans que le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre s'affrontent pour des questions dynastiques. Mais ce sont des questions très importantes parce qu'elles concernent une bonne partie du sol de la France qu'on connaît aujourd'hui. Et en 1413, donc 2 ans avant Azincourt, c'est Henri V de Lancastre qui parvient au pouvoir à Londres et lui compte bien précisément récupérer sa couronne, la couronne de France, et il va exiger pas moins de la quasi-totalité en réalité du royaume, y compris la fille de Charles VI le Fou, qui est à l'époque le roi régnant en France, et il se prépare très activement à la guerre.
Just as we reached the top of the hill, on the other side, we saw emerging about half a mile.
À peine arrivés en haut de la colline, nous vîmes surgir à 800 mètres devant nous les rangs menaçants des Français.
Filling the broad field like a countless swarm of locusts.
Ils envahissaient le champ comme une nuée de sauterelles.
And the forest of spears, with the great helmets gleaming in between, was truly.
Cette forêt de lances et de casques étincelants était vraiment terrifiante.
And there was only a valley.
Il n'y avait qu'une vallée, et bien étroite, entre eux et nous.
Au matin du 25 octobre, les deux armées se font face, l'armée anglaise et l'armée française. L'armée anglaise a décidé d'attendre les Français dans un labour extrêmement boueux, c'est un pré. Il ne fait pas plus d'un kilomètre de large, on est peut-être même sur 900 mètres de large. Donc c'était extrêmement faible au regard du nombre de soldats. Puisque vous avez encore ce matin-là quelque chose comme 5 à 8 000 soldats anglais et sans doute une vingtaine de milliers de soldats français. Et de part et d'autre de ce champ boueux sur lequel il a plu pendant des jours et des nuits, vous avez 2 forêts. Et les Anglais, eux, ont dormi au sec parce qu'ils avaient des toiles de tente. Les Français, fourbus d'avoir couru après les Anglais pendant des semaines, eux, ont dormi pratiquement sous la pluie, dans la boue. Et pour les chevaliers, debout sur leur selle à cheval. Donc on est absolument fatigué, notamment du côté français. Et les Anglais vont prendre très rapidement l'avantage parce que Henri V donne l'ordre aux archers de créer un véritable nuage de traits, autrement dit de flèches, qui vont se déverser sur l'armée française, sachant que par ailleurs les soldats anglais avancent pour être très très près, pour pouvoir mieux toucher les chevaliers et les fantassins français, et plantent des pieux qu'ils ont aiguisés toute la nuit dans la boue pour arrêter, évidemment, les charges de cavalerie française à venir. Et ce qui devait arriver arriva dans le pur style de la chevalerie française, celui qui avait déjà coûté très cher à Crécy en 1346 et à Poitiers en 1356, eh bien, il y a plusieurs charges de cavalerie française. Donc, évidemment, les chevaux ne galopent pas très vite parce qu'ils sont dans la boue, ils portent environ 125 kilos de tonnes et de métal, et lorsque les flèches s'abattent sur les chevaux, et au défaut de la cuirasse, et que les chevaliers français tombent par terre, eh bien, ils n'ont quasiment plus aucune chance de s'en sortir face aux archers et aux fantassins anglais qui très rapidement lâchent leurs carquois et leurs arcs, hein, une fois qu'ils ont envoyé l'intégralité de leurs flèches, et foncent sur le champ de bataille, hein, quelques centaines de mètres en avant, avec des couteaux, des gourdins, pour achever l'armée française. Si vous ajoutez à cela une confusion très grande face aux pieux plantés par les Anglais et donc des fantassins français qui refluent, sachant que derrière la deuxième ligne est en train d'avancer, on est en quelques heures dans un chaos et une confusion qui vont coûter la vie à une très grande partie de cette armée française qui comptait trois lignes. La troisième ligne de chevalerie, elle, n'interviendra jamais. On ne sait pas pourquoi, mais vraisemblablement, voyant le désastre qui est en train de se jouer à 300-400 mètres devant soi, eh bien, cette ligne de chevaliers français décide simplement, sans coup férir, de faire retraite. La victoire est absolument totale pour les Anglais qui, par ailleurs, font un nombre de prisonniers importants, et notamment parmi les grands nobles que compte le Royaume de France à l'époque.
Soudain, les archers anglais décochent une volée de flèches. Sans attendre, Guillaume de Saveuse, qui commande la cavalerie, donne l'ordre de charger.
Charger à cheval des milliers d'archers qui, chacun le sait, tirent 10 flèches à la minute en début de combat, c'est véritablement un fait qui nécessite une grande bravoure.
Alors la clé d'Azincourt, c'est à la fois les armes, mais c'est aussi le commandement et c'est le terrain. Et l'intégralité de ces caractéristiques militaires habituelles vont être défavorables aux Français. Encore une fois, on est sur le plan numérique, on est sur quelque chose comme un rapport de force de 1 à 3 ou de 1 à 4 en faveur des Français, d'une part. D'autre part, la chevalerie française est présente avec de très nombreux comtes, barons, des chevaliers de haut lignage. Ils sont très bien équipés, ils portent plusieurs dizaines de kilos de métal sur eux et ils conduisent de puissants chevaux. Mais il a plu pendant des jours et des jours, il a plu la nuit précédant la bataille, qui va avoir lieu le 25 octobre, et une charge de cavalerie dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Et du côté anglais, on a beaucoup moins de chevaliers, on a surtout des archers. Et les quelques milliers d'archers anglais qui se trouvent à Azincourt ont déversé sur l'armée française, à la fois les fantassins mais aussi les chevaliers, des dizaines de milliers de traits, c'est-à-dire de flèches qui s'abattent avant même le début de la bataille sur l'armée française. Et alors, enfin, le commandement. D'un côté, vous avez le roi d'Angleterre en personne qui harangue ses maigres troupes et qui leur donne du courage. Et le roi d'Angleterre, d'ailleurs, va se battre aux côtés de ses archers et de ses chevaliers. Et de l'autre côté, côté français, il n'y a pas de commandement. Ou plus exactement, il n'y a que des commandements. C'est assez classique, d'ailleurs, en France. C'est-à-dire que le Royaume de France, à ce moment-là, est travaillé par une quasi-guerre civile, en tout cas par des luttes de pouvoir extrêmement importantes. Chacun vient avec ses hommes, chaque maison vient avec ses hommes, et au fond, personne n'obéit à personne. Et Charles VI, d'ailleurs, est évacué avant le début de la bataille.
Nous nous étions persuadés que la vue de tant de princes sèmerait la terreur chez l'ennemi, et que pour être victorieux, nous n'aurions rien d'autre à faire qu'à charger rapidement et avec audace. Déshonneur éternel. Si c'est une consolation pour un homme d'honneur de penser qu'il a été battu par des adversaires de noble origine, c'est une terrible honte d'être vaincu par de vils Anglais sans mérite.
Si Azincourt est aujourd'hui tristement célèbre, c'est que ce lieu est désormais synonyme de défaite absolue.
Alors, ce qui est retentissant à Azincourt, c'est la défaite absolue de l'armée française qui, sur le papier et en fait sur le terrain, ne pouvait absolument pas perdre. Ce n'était en principe pas possible. Pour une raison très simple. D'abord, les troupes d'Henri V, le roi d'Angleterre, sont en train de refluer en Picardie vers Calais, puis vers l'Angleterre. Ils ont réussi à prendre une petite ville, Harfleur, mais en réalité, ils n'ont pas assez d'hommes. Il reste environ 5000 archers et plus ou moins 1000 cavaliers. Ça ne suffit pas pour affronter l'Ost Royal, donc la grande armée du roi de France. Et les Anglais sont obligés de faire plus de 200 km en quelques semaines pour tenter de gagner Calais avant l'arrivée des Français. À la fin de la journée, le bilan est sans appel. Les Anglais ont perdu un grand-duc, en l'occurrence le grand-oncle du roi Henri V, qui d'ailleurs est vraisemblablement mort d'une crise cardiaque ou étouffé sous le poids des corps qui s'abattaient sur lui. Plusieurs centaines de tués sur 5 à 6 000 hommes et plusieurs centaines de blessés. Mais du côté français, on a au moins 6 000 tués. 6 000 tués en quelques heures, c'est le pire bilan de la guerre de Cent Ans, toute bataille confondue. C'est sans compter les prisonniers, c'est sans compter les blessés qui auraient pu, par miracle, s'échapper via les deux forêts qui entouraient le champ d'honneur. Et c'est pratiquement le tiers, peut-être même un peu plus, de l'armée française qui, ce jour-là, a vécu l'une des pires catastrophes de son histoire. Il faut également dire que c'est vraisemblablement la fin de la grande chevalerie française, la grande tradition de la chevalerie française, d'abord parce que des dizaines de grands chevaliers, des ducs, des barons, des comtes, deux frères du duc de Bourgogne, qui est l'un des plus puissants de France, mourront sur le champ de bataille ou seront capturés de longues années durant, d'une part. D'autre part, cela va accélérer la division et les rivalités au sein d'un royaume qui va entamer la quatrième phase, en quelque sorte, de la guerre de Cent Ans, dans des conditions absolument catastrophiques, jusqu'au moment où, 20 ans plus tard, interviendra l'épisode de Jeanne d'Arc.
Et la morale de l'histoire, Frédéric Ancel ?
La victoire de la détermination sur la superbe. La victoire de la détermination sur la superbe, c'est le grand historien britannique John Keegan qui parle d'Agincourt de cette manière-là. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez une très vieille tradition de la chevalerie française, grand style, qui pourtant avait déjà été vaincue à plusieurs reprises et de manière humiliante, et d'ailleurs, et pour l'essentiel face aux Anglais au début de la guerre de Cent Ans, mais qui n'en avait qu'une et qui se poursuivait. Et d'ailleurs, cette tradition de la chevalerie française charge façon grand style, même si c'est parfaitement stupide d'un point de vue géographique et climatique, eh bien, on va la retrouver un siècle plus tard, très précisément, avec François Ier à la bataille de Pavie, qui est une défaite absolument catastrophique et qui se déroule, alors évidemment de manière différente, mais là aussi, avec une charge de cavalerie qui n'avait absolument rien à faire dans cette bataille qui, au début, était là aussi, en principe, gagnée.
Méditer Azincourt permet de comprendre d'autres défaites à venir.
Le pragmatisme, c'est ce qui a manqué très fortement et très manifestement à l'armée française à Azincourt, et c'est même le moins qu'on puisse dire. Il a manqué de la raison. Alors, il n'a pas manqué de panache, hein. Mais face à ce panache, on a eu des Anglais qui, un peu comme d'habitude, jusque-là, et d'ailleurs, pendant encore des siècles suivants, eux seront absolument pragmatiques, c'est-à-dire s'adapteront au terrain, aux circonstances, aux hommes, à leur détermination et à celle de leurs ennemis, bien mieux que des armées françaises qui resteront très attachées à ce grand style. Alors, parmi les défaites désastreuses qu'on peut évoquer après Azincourt, il y a un siècle plus tard, très exactement, la bataille de Pavie avec François Ier, et puis si on franchit encore les siècles, eh bien, nous avons 1870, hein, près de Sedan, avec les dernières grandes charges de cavalerie française, en l'occurrence contre les Prussiens.
Pour poursuivre cette réflexion, vous pouvez lire les 100 mots de la guerre aux presses universitaires de France, de Frédéric Ancel, bien sûr. Superfell a été piétiné par Juliette Devaux, gâché par Emmanuel Dupin, bousillé par Clémence Gros et dévasté à la réalisation par Félicie Faugère.